J'ai un scoop. Nous allons méditer. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, là, maintenant, que d'essayer de méditer ? Et nous allons faire... Alors là, c'est vraiment un scoop, parce que ce n'est pas du tout ce qui est marqué dans le message qu'on vous envoyait. On va faire la pratique de l'ombre et de la lumière, et pas la pratique de la respiration pointue et avancée. Ça vous va, vous n'êtes pas trop déçus. Vous allez voir, c'est encore mieux pour aujourd'hui. Donc prenez le temps de bien vous asseoir, que vous soyez assis là, à la maison de la méditation, ou que vous nous regardiez. Et je dis bonjour à tous ceux qui sont derrière leur écran, dans tous les lieux du monde. Et on prend le temps de vraiment se dire, ah, on va faire la chose la plus importante qu'on puisse faire là maintenant. Ça, c'est une bonne attitude. Et vraiment essayer de simplement essayer de vous asseoir. Ne faites rien de spécial. Mais autorisez-vous à être exactement comme vous êtes. Ça, c'est très important. Méditer, c'est très important parce que lorsqu'on médite, on prend le temps d'être exactement comme on est. Oui, dans la journée, dans notre vie, on n'ose pas, on ne peut pas, on n'arrive pas, on n'a pas la place, le temps de simplement être dans l'entièreté de ce qui se passe pour nous là maintenant. Vous êtes prêt dans la pratique à rencontrer ce qui est exactement comme c'est. Et ce que j'appelle pour cette pratique, aussi bien ce qui est du côté de l'ombre que du côté de la lumière, tout en laissant pour l'instant la notion d'ombre et de lumière tout à fait dans le flou, tout à fait de manière imprécise. Et c'est important parce que l'ombre et la lumière, ça peut prendre plein de sens différents. Ça peut vouloir dire plein de choses différentes, ça peut évoquer des images et des émotions tout à fait diverses. Ou peut-être même rien de spécial, peu importe. Vous êtes là, assis, ouvert à l'ombre et la lumière, à l'entièreté de tout ce qui constitue le moment présent pour vous, là, maintenant. L'ombre et la lumière, c'est une manière de dire qu'on prend, qu'on tient ensemble les choses. Les différentes polarités, le jour et la nuit. Le chaud et le froid, le haut et le bas, le clair et le sombre. Le doux et le rugueux, le léger et le solide. On est avec tout ce qui fait notre existence. On est simplement présent, simplement ouvert à tout ce qui constitue notre présent. Et Vous faites ça, vous laissez venir dans le champ de votre présence tout ce qui constitue le présent, l'ombre et la lumière. Vous laissez venir, vous laissez être. Vous vous ouvrez à tout ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Vous pouvez complètement lui laisser la place. Si vous comprenez, si vous ne comprenez pas, si c'est clair ou si ça ne l'est pas, tout participe de l'expérience qui est la vôtre maintenant. En faisant ça, on surmonte la tendance à mettre de côté, rejeter, nier certaines choses qui nous touchent trop, nous blessent, ne nous plaisent pas, nous semblent incertaines, confuses et qu'on voudrait ne pas vivre. Est-ce qu'on a une tendance à ne pas vouloir ce qui est pénible, difficile, et vouloir à l'inverse vivre une expérience agréable, douce? Et là, on laisse tomber, il y a le bruit de la sirène, et il y a le silence. Et il y a ce qui nous énerve et ce qui nous plaît. Et il y a la douceur d'être présent et une certaine irritation. Il y a une certaine clarté et une certaine torpeur. Et on est là avec ça. Rien n'est hors du champ de notre pratique, rien n'est rejeté. On est avec tout ce qui constitue notre présent. Et on voit que le jour ne peut pas être sans la nuit, l'ombre sans la lumière. C'est un phénomène naturel sur la Terre qui s'applique également aux êtres humains. Le juste est juste parce qu'il y a de l'injuste. Le bonheur est là aussi parce qu'il y a parfois du malheur. Je sais que je suis grand parce que j'ai vu des gens plus petits. Je peux connaître la chaleur parce que j'étais en contact avec le froid. Non. On s'ouvre aussi bien à l'ombre et à la lumière, et par là, on laisse tomber l'effort binaire qu'on a souvent. Dans lequel il y a des choses qui sont mal, des choses qui sont fausses, des choses qui sont pénibles, des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui sont contre nous, des choses qui sont pour nous, des choses qui sont agréables. Et là, on dissout ça, on laisse tomber ça, on change complètement de perspective. On accepte qu'on est des êtres d'ombre et de lumière et que c'est là que réside notre humanité. Cette pratique, c'est la pratique de la grande humanité. Accepte d'être simplement, pleinement, entièrement humain, avec l'ombre et la lumière, avec ce qui est dur et ce qui est doux, ce qui est triste et ce qui est heureux. De manière beaucoup plus vaste, beaucoup moins crispée, beaucoup moins dualiste. On peut explorer plus précisément encore au niveau des sensations. Qu'est-ce qui fait ombre et qu'est-ce qui fait lumière? Au niveau des sensations que nous sommes en train de vivre là maintenant, est-ce qu'on peut vraiment s'ouvrir pleinement à tout le spectre de ce qu'on éprouve, avec ce qui peut être ombre pour nous et ce qui peut être lumière pour nous? Peut-être que ombre, c'est au début quelque chose de pas agréable, ou quelque chose d'obscur ou imprécis, ou encore autre chose. Mais l'ombre, ça peut être aussi ce qui est rafraîchissant, ce qui n'a pas besoin d'être défini, ce qui repose, ce qui apaise. Voyez ce que ombre évoque pour vous au niveau des sensations. Voyez si vous pouvez habiter un peu du côté de l'ombre. Est-ce que ça change quelque chose dans votre manière d'être là, présent, d'intégrer, de vous ouvrir à cette dimension du monde, de la vie? Et la lumière, qu'est-ce que ça évoque pour vous, la lumière? Ça peut prendre plein de formes différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Ce qui importe, c'est de vous vous ouvrez à cette dimension de ce qui est pour vous le côté plus lumineux. Puis on peut s'ouvrir à l'harmonie des contraires, l'harmonie de tout cela. Comme si on s'ouvrait au climat propre de notre expérience. Dans le climat, il y a la chaleur, le vent, une certaine humidité, tout ce qui constitue notre présence. C'est pareil ici. Quelles sont les dimensions, les caractéristiques, les qualités des sensations que vous éprouvez? Comme si vous vous promeniez dans un bois, il y a des clairières et des allées plus protégées. Et tout cela fait partie du bois. Et tout cela fait partie de votre expérience. Et maintenant, si nous essayons au niveau des émotions. Est-ce qu'on peut rentrer au niveau, on peut rentrer dans la dimension d'ombre et de lumière de vos émotions? Est-ce que l'ombre évoque quelque chose de ce que vous vivez là maintenant? Est-ce que l'ombre, c'est ce qui est tendu, lourd, obscur, posé, discret, retenu ou toute autre chose? Et qu'est-ce qui est lumineux pour vous en termes d'émotion, là, maintenant? Qu'est-ce qui est l'ombre? Qu'est-ce qui est lumineux? Et qu'est-ce qui est entre les deux? Et qu'est-ce qui est à la fois l'un et l'autre? Et dans la dernière étape, après la sensation et les émotions, on va tout laisser s'intégrer dans notre expérience en laissant tomber l'idée d'ombre et de lumière. On les laisse complètement faire partie de vous de façon unitaire. Et vous laissez tout se dissoudre et trouver place dans votre pratique. Ce que vous avez touché, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Ce que vous avez éprouvé, ce qui est resté obscur, ce qui est devenu clair. Si vous avez le sentiment d'avoir compris quelque chose de très important, vous laissez s'intégrer cela à votre expérience. Et si vous avez le sentiment d'avoir rien compris, vous laissez ça s'intégrer à votre expérience. Quoi que vous expérimentiez, c'est là, pleinement à sa place, avec ce qu'il y a d'ombre et de lumière, et de présence. C'est une pratique qui est un peu déconcertante parce qu'il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à réaliser. À analyser, mais vous laissez juste être l'ombre, et le vent, et le ciel, et la terre, et le soleil. Être dans le beau jardin de votre propre esprit. Vous laissez ainsi être tout ce qui est, tout ce qui vient, tout ce qui surgit, simplement. Voilà, comme la semaine dernière, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Et alors, tous ceux qui nous écoutent, vous êtes vraiment, qui ne sont pas là, vous êtes vraiment bienvenus de poser vos questions. C'est vraiment précieux. Et on peut faire des questions assez ouvertes. Mais juste, si jamais vous posez des questions, n'hésitez pas à être... Déployez un peu votre question à l'écrit, parce que quand il y a juste quelques mots, c'est difficile de comprendre ce qui est important. Alors, est-ce qu'il y a... une question? Il y avait un maître tibétain qui était extraordinaire, un des plus impressionnants. Pendant longtemps, il n'enseignait qu'en répondant aux questions. S'il y avait plus de 30 secondes de silence, il partait. C'était vraiment un exercice très fort pour que les gens, quand même, qui venaient souvent de très loin, parce qu'ils venaient très peu en Occident, et donc tout le monde était sur le qui-vive, ça donnait une tension. C'est très. Oui, quel est ton prénom?
Valérie, je voulais juste comment on arrive à équilibrer en fait entre le enfin, peut-être qu'il faut pas équilibrer entre le moment où on est envahi par le côté sombre comme vous le désignez
Il n'y a pas besoin d'équilibrer, parce que le sombre, c'est lourd et c'est beau. C'est dur et c'est reposant. Et il y a forcément, on peut pas sentir le sombre sans sentir qu'il est sombre parce qu'on est en rapport à la lumière, sinon on verrait pas que c'est sombre. Si on n'avait pas la lumière, on verrait pas que c'est sombre, donc on voit le sombre à partir de la lumière. Mais en général, on est dans un conflit. Là, dans ce que tu dis, il y a un conflit. On est submergé par le sombre. Mais en réalité, dans la pratique, ce que je vous invite à faire, c'est le sombre est là. Si vous le laissez se déployer et même vous submerger,
Et comment quitter le regret de d'être envahi par le sombre?
ben, vous laissez le regret être là. Tant que vous luttez parce que vous pensez que le regret ne devrait pas être là, que ça ne devrait pas être là. C'est ça qui empêche la pratique. C'est le méta-jugement que nous portons qui détermine ça, tu as le droit d'être là, ça, tu n'as pas le droit d'être là. C'est cette manière terrorisante que nous avons d'être avec nous-mêmes. Mais là, dans la pratique, on essaye de renverser très profondément le paradigme et de dire, il n'y a rien qui n'a pas le droit d'être là. Tout ce qui est là, je lui donne droit. Dans l'espace tout à fait particulier de la pratique. Et c'est pour ça que la pratique de la méditation est aussi importante et que j'ai dit que c'était la chose qu'on peut faire le mieux aujourd'hui, là maintenant, parce que c'est la seule manière de sortir de cette complète illusion qui prend les êtres humains, les prend à la gorge. Et les rend malheureux. C'est cette terrible erreur. Les êtres humains font cette erreur redoutable de penser que le jour où ils chasseront l'ombre et qu'ils auront la lumière, qu'on chassera le mal et qu'on sera du côté du bien, alors ça ira. Et on sait que c'est pas vrai. Tous les gens qui ont voulu être du côté du bien sont devenus, ont créé la terreur au fond, socialement, politiquement, économiquement et dans notre propre existence. C'est le même mouvement. Et donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'inventer un tout autre paradigme dans lequel, au lieu, dans lequel on entre dans un jeu des polarités qui est inhérente à l'existence humaine. Mais paradoxalement, entrer dans un jeu des polarités, ça n'empêche pas, après la pratique, d'avoir beaucoup de clarté sur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais ce n'est plus fait du point de vue, de la panique, de la défense panique. On a à préserver, défendre quelque chose. Ça devient beaucoup plus ample. Donc ça, c'est ça. C'est si vous aviez plus que la lumière, vous étoufferiez. Un monde où il n'y aurait que de la lumière est un monde où personne ne pourrait vivre. Quand il y a trop de lumière, on va se réfugier du côté de l'ombre. Quand il y a trop d'ombre, on va du côté de la lumière. Et la vie a à voir avec ça, avec laisser le vent et la mer venir au loin. On sent la mer, on sent le vent. Mais on sent. On entend le bruit là. C'est à la fois irritant et en même temps c'est là. On peut voir comment les choses sont. Fluctuante, vivante. Et le sens de la pratique, mais c'est le sens de l'attitude juste, c'est d'avoir une vision plus ample, plus ample par rapport à ce qui se passe. Dans une relation. Tellement, au fond, du coup, comme les êtres humains sont pris dans cette profonde erreur de vouloir chasser l'ombre pour atteindre la lumière, atteindre le nirvana, saisir le paradis, tout ça débouche sur tellement de souffrances. Plus on veut le nirvana, plus on souffre. Donc quand on comprend que la vie, c'est ce jeu de l'ombre et de la lumière, alors on fait la paix avec notre humanité. Et je dirais, le cœur de ce que j'essaye de présenter, c'est une pratique qui ne soit pas une guerre contre notre humanité. Et j'ai l'impression que la méditation, comme elle est présentée, est en fait un outil pour que les êtres humains soient en guerre contre eux-mêmes. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça. Donc on apprend aux gens, je vais vous apprendre à faire la guerre contre vous-même. Et les gens croient un truc pareil. C'est quand même quelque chose d'assez dingue. Partout, on explique ça. Donc, soit on l'explique au niveau le plus minable. Grâce à moi, vous allez atteindre le bonheur parfait, vous n'allez plus souffrir. Vous allez réaliser tous vos projets. On va augmenter vos performances. Soit au niveau plus élevé, mais tout aussi minable en réalité, je vais vous apprendre à vous débarrasser de votre ego, à entrer dans la pureté de la spiritualité ou de la loi, enfin ce que vous voulez comme salade. Et c'est la même supercherie. Dans les deux cas, on prétend qu'on va vous donner des outils pour faire la guerre contre votre propre humanité. On est sûr d'être perdant, parce que comme on est des êtres humains, on n'y arrivera jamais. On peut que réintégrer son humanité. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Ça crée énormément de souffrance.
Je voulais poser. Bonjour, je m'appelle Jean. Oui. Je voulais poser que. La question du rapport entre la méditation et la psychanalyse. Parce qu'à une époque, actuellement, heureusement pour moi, actuellement, je n'ai pas de très grosses difficultés, donc j'arrive à apprivoiser mes émotions et à suivre votre enseignement. Voilà. Mais il y a une trentaine d'années en arrière, j'avais quand même de graves problèmes. J'avais divorcé, je n'arrivais pas bien à comprendre où j'en étais dans ma vie et pourquoi je cumulais un certain nombre d'échecs. Et je pense que si je n'avais pas été aidé par une tierce personne, c'est-à-dire un psy, hein, je ne pense pas que je m'en serais sorti tout seul, uniquement par la méditation.
Mais ça, on ne peut pas savoir.
Donc, je voulais vous poser la question de quel lien vous faites entre...
Ça, on peut pas. D'abord, on ne peut pas savoir. Peut-être que si vous aviez pratiqué il y a 30 ans, ça aurait été encore plus extraordinaire. Mais en même temps, ça c'est. Mais en même temps, votre chemin, c'est votre chemin. Donc, le fait que, à un moment, c'était la psychanalyse, et maintenant, c'est la méditation, c'est parfait. C'est ton chemin. Ça a un sens très profond. Et au fond, il n'y a pas. Faut pas que je réponde à la question, parce que si je réponds à la question, je ne peux que créer un doute sur ton expérience qui est parfaite comme elle est, puisque c'est ça que tu as vécu. Oui. À un moment, tu as eu une difficulté, oui. Et la psychanalyse t'a aidé, absolument. Et maintenant, la méditation ouvre quelque chose pour toi. Mm-hmm. Donc, je dirais, c'est ça qui est juste. Et on entend dans ce que tu dis que c'est juste. Donc, il y a... Ça, c'est vraiment la question de l'ombre et la lumière. On ne peut pas dire de l'extérieur, c'est ça ou c'est pas ça. C'est, mais, ceci dit, ceci étant dit, la psychanalyse, c'est, dans ce cas-là, de plus à son sommet, et je vais parler à son sommet parce que ça ne sert à rien, c'est comme si les gens me... La méditation, dans ce cas-là, le plus ridicule, on ne va pas parler, prenons la méditation à son sommet et la psychanalyse à son sommet. La psychanalyse à son sommet, c'est vraiment une écoute de l'ombre et de la lumière, puisque le thérapeute est là dans une écoute, et ce qui peut sembler le plus affreux ou le plus sublime, pour lui, il n'y a pas à mettre d'étiquette dessus. Ce qui compte, c'est de pouvoir laisser être aussi bien l'un que l'autre et leur jeu propre et sortir de l'idée moraliste et étroite et mécanique qu'il y a des choses bien et des choses pas bien. Et par là, l'analyser apprend à être à l'écoute de manière neuve, parce que sans ça, il n'écouterait pas. Donc il y a un espace qui est l'espace de l'écoute, couvre le champ de l'analyse. On parle de la psychanalyse, on pourrait parler de la plupart des psychothérapies, du reste. Mais enfin, toute psychothérapie qui est non dualiste. Il y a des psychologies dualistes. Il y a des psychologies qui vous apprennent à être du côté du positif, à penser positivement. Mais ça, c'est pas ça dont je parle. Mais la psychanalyse...
Les gens avec qui j'étais dans un premier temps, j'avais été avec un psy qui était très freudien et ça me convenait pas trop. Ensuite, Engelstadt, quoi, où à la fois on avait cette ouverture d'esprit, où à la fois j'avais un entretien individuel et on faisait un entretien de groupe, quoi. Et puis après, j'avais été avec... j'allais très bien, mais j'avais changé de psy. Et j'étais avec un psy qui s'intéressait beaucoup à la spiritualité, qui connaissait la méditation, qui était allé en Inde, etc. et autres. Et donc, cette dernière étape qui m'a permis de... J'ai mes difficultés.
Comme quoi, je ne savais pas, mais j'étais quand même, j'avais une sorte d'intuition. Quand j'ai dit qu'on entendait dans ta voix juste que c'était ton chemin et qu'il n'y avait pas à faire de catégorie. Donc c'est bien, c'est ça ton chemin. Mais c'est bien, ça nous permet de voir que ce qu'on fait dans cette pratique, toute forme de pratique réelle le sait aussi. Que ça montre juste un phénomène. Voilà, la méditation, c'est toujours la vertu de la méditation, c'est toujours d'aller à la racine profonde d'un phénomène décisif, d'un paradigme central. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Merci bien. Bonjour, je m'appelle Maryse. Alors moi, c'était un peu le contraire de ma voisine. J'étais dans le présent. Bon. J'essaie d'être dans le présent vivant. Et donc là, dans le présent vivant, je ne voyais pas de, d'ombre. Enfin, il n'y avait pas de...
Ah, c'est bizarre, ça. Par exemple, l'ombre. L'ombre, c'est peut-être le silence. Le silence est une forme d'ombre. On y est à l'abri. C'est pas lumineux, mais c'est apaisant.
Oui, mais alors du coup, je voulais quand même trouver de l'ombre. Donc là, j'ai fait un effort. Et bon, et là, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire, hein, parce que ça manque pas quand même dans ma vie. Et voilà. Mais disons que spontanément, j'étais là, j'étais présente à ce que.
Oui, mais refaisons l'exercice. Là, ouais. En étant juste présent. Qu'est-ce qui pourrait être ombre ? Mais juste au niveau de la sensation, pas d'un souvenir, mais au niveau purement de la sensation, qu'est-ce qui serait ombre pour toi ?
La nuit dehors ?
Non.
C'est de ne pas réussir à trouver, enfin, c'est d'être
un peu confuse. Bien. Là, oui,
d'être pas... un peu confuse de...
Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien.
De ne pas trop savoir, d'être un peu perdu,
C'est bien, ben voilà. Il y a toujours ça. On est toujours un peu perdu. Donc, il y a toujours de l'ombre parce qu'on est toujours un peu perdu. Et c'est heureusement. Est-ce que quelqu'un peut dire autre chose au niveau de la sensation qui serait ombre pour vous ? Comment ? L'impatience. Voilà, l'impatience. Non, mais toi, ton expérience, c'est que tu te sens... un peu perdu. Mais ça peut, mais on va, je vais donner plusieurs noms pour qu'on voit comme c'est riche. Impatience, douleur, absence, ennui, oui. Vulnérabilité, voilà, des souvenirs, une certaine moiteur dans l'air. Une certaine le poids d'un pied sur l'autre qui s'engourdit. Et il y a plein de choses. Le bruit d'une moto, comme on a entendu. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice avec la moto, parce qu'il y avait une moto. Et au début, voilà, on est pris... On ne voudrait pas qu'il y ait le bruit de la moto. Et en faisant l'exercice, il y avait la moto, il y avait au-delà de la moto, et même la moto devenait ombre et lumière elle-même. Et je voyais que mon rapport changeait à la moto. Il y avait moins le côté, il y a ma pratique et il y a la moto qui est à l'extérieur de ma pratique et qui est en train de l'embêter. On arrivait à l'intégrer et ça changeait. Donc c'est un peu ça l'idée de la pratique. C'est on intègre tout au lieu de... Parce qu'en fait, on pratique dans un petit espace, il y a ça, et merde, je suis fatigué. Merde, je m'ennuie. Merde, il y a la moto. Merde. Et du coup, c'est horrible la pratique. Enfin, c'est étroit. Et là, on fait pratique. Ah oui, je m'ennuie. D'accord. J'ai mal. D'accord. Il y a la moto. D'accord. Je sais pas. Comme toi. D'accord. C'est ça.
Et quand vous dites d'accord, ça veut dire vous acceptez.
Ça veut dire d'accord, c'est là. C'est là. Parce qu'on reconnaît comme on... C'est une manière... Oui, de le reconnaître, de l'accepter, de le laisser être, de lui donner droit, de se relier à lui, de ne pas entrer en guerre avec lui. Voilà, c'est différent, synonyme. C'est merveilleux, c'est une pratique extraordinaire, la pratique de l'ombre et de la lumière. C'est magique. Et c'est très profond. C'est très simple et c'est très profond. Parce que ça touche quelque chose d'extraordinairement décisif, qui est vraiment... une sorte de manichéisme dans lequel on est emprisonné, qui nous ronge de l'intérieur. C'est une manière tellement binaire, manichéenne de penser. Et toute notre vie est abîmée par la manière binaire que nous avons. Ça doit être triste ou joyeux, ça doit être positif ou négatif, mais ça n'est jamais vrai. Jamais rien n'est positif ou négatif. Les choses sont ça dit rien. On met les choses dans des petites cases et après ça. Et alors après, c'est ça le drame, c'est que du coup, on est pris dans l'idée après que on est binaire, on est manichéen, c'est une crispation profonde. Et après, on a l'idée qu'il faut rester du côté du positif. Et on comprend plus rien du tout. C'est Rumi qui disait La plaie, c'est l'endroit où la lumière pénètre en vous. Voilà, ça, c'est une pensée de l'ombre et de la lumière. La plaie, c'est là où la lumière pénètre en vous. Mais nous, on voudrait... du coup, on se trompe. Du coup, on fait une erreur. On fait une première erreur. On est binaire, manichéen. Et après, on fait une deuxième erreur. On veut être uniquement du côté du positif. On fige quelque chose comme positif. Après, on veut être que du côté du positif. Et alors, on est en train de fuir la réalité. Et alors, ça nous retombe dessus de manière... c'est absolument terrible. C'est une division tellement malsaine et nuisible. C'est-à-dire, on fait le positif et le négatif. Après, on considère que telle émotion est négative. Et après, on veut fuir l'émotion parce qu'elle est négative. Donc, du coup, c'est perdu. Alors qu'il faudrait, au contraire... les inscrire dans une forme de dialectique féconde des contraires. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres, il n'y a pas de rose sans épines. C'est très important. Il y a des questions? Tu as le micro?
Alors, sur les réseaux sociaux, il y a une question de Christine qui demande si dans cette pratique, il y a une encre.
Une encre?
Oui, elle compare à la pratique des multiples bonjours où la respiration peut être une encre.
Non. Pas d'encre. Si elle veut l'encre, c'est du côté de la lumière ou du côté de l'ombre? Il y a une autre question?
Il y a une question de Lolo qui demande si on peut appliquer la pratique de l'ombre et de la lumière à la vie de tous les jours.
La pratique de l'ombre et de la lumière qu'on fait, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours, il y a de l'ombre et de la lumière. Mais nous ne le reconnaissons pas. Et c'est ça qui nous brise. Qui nous défigure. Nous luttons contre l'ombre pour la lumière. C'est un combat vain qui ne marche jamais, qui nous épuise, qui nous brise, qui nous rend inauthentiques. Et la pratique, c'est changer de paradigme. C'est complètement arrêter cette illusion mortifère. Donc ça, c'est la vie. Mais si on ne pratique pas, on ne le voit pas. C'est pour ça que les choses vont si mal dans le monde. Parce que les gens ne pratiquent pas. Ou quand ils pratiquent, ils font ce qui est encore pire que de ne pas pratiquer. Il vaut mieux pas pratiquer que pratiquer comme on pratique. Puisque si c'est pour pratiquer, pour renforcer encore la bataille, comme je le disais tout à l'heure, puisque la pratique pour la plupart des gens, c'est « je me bats contre le négatif pour être sûr que je vais être dans le nirvana », alors là, évidemment, c'est pire, il vaut mieux pas pratiquer du tout. Les gens qui ne pratiquent pas, souvent, ils sont quand même un peu plus en rapport à l'ombre et à la lumière. Mais l'attitude fondamentale d'entrer en rapport à l'ombre et à la lumière, ça, c'est vraiment... Mais il y a d'autres gens, il y a d'autres manières de faire. La cuisine, on a parlé de la psychanalyse, mais la cuisine. Si on fait la cuisine, on est obligé d'être dans l'ombre et la lumière. Parce que vous êtes tout le temps en train d'équilibrer les saveurs. Il faut quelque chose qui soit doux et quelque chose qui soit intense. Il n'y a que de l'intensité, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est très mystérieux. J'ai l'impression que les grands cuisiniers en savent beaucoup sur ça, sur l'ombre et la lumière. Un poisson tout blanc, une sauce verte. Poisson complètement neutre et la sauce d'une intensité folle. Si ça s'appelait ça, c'est le neutre. Tout ça, c'est voilà. Mais c'est cet entente de la vie qu'il faut redécouvrir, qu'on a perdu et on est extrêmement crispé. C'est terrible. On voit notre monde se polarise. Il y a quelque chose de socialement, politiquement, à tous les niveaux, on sent que tout doit être polarisé. C'est terrible. Donc la méditation, c'est vraiment... c'est formidable, c'est salutaire. Ça a un pouvoir de transformation et de vérité. C'est bon ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Ben, bravo. Heureusement qu'il y a quelques questions.
Par rapport à justement à cette dualité dont vous parlez, où il faut accepter l'ombre et la lumière.
On sort de la dualité. Oui, en fait, oui. La dualité, c'est il y a l'ombre et la lumière, il faut lutter l'un contre l'autre. Et la pratique de l'ombre et la lumière, c'est voir que tout s'intègre, que l'ombre et la lumière sont interdépendants, que ce qui est ombre devient lumière, ce qui est lumière devient ombre, que l'ombre est des fois ce qui est douloureux et des fois ce qui est salutaire, que la lumière est merveilleuse, mais en même temps, elle est étouffante, et qu'on passe sans arrêt de l'un à l'autre, c'est ça.
Mais juste, par exemple, en hypnose, j'ai eu la chance de faire des suivis par François Roustan, et en fait, il y a...
Ça, c'est bien, ça, ouais. Un beau moment.
Et c'est en tout... Enfin, si je fais un parallèle où moi, je débute en méditation, donc c'est... J'y suis pas encore, on va dire. Il y a un moment où il n'y a plus de questionnement, en fait.
C'est clair. Tant qu'il
y a... Il y a un moment où on flotte. Enfin, c'est pas pour dire c'est génial. Il n'y a pas de jugement. Il y a une espèce de... un moment où on est en apesanteur. C'est plus doux, mais c'est pas...
Ouais, je
c'est pas forcément agréable. C'est-à-dire que c'est comme si on commence une navigation en fait en soi.
Je dirais que c'est pas tout à fait ça. On n'est pas en apesanteur parce que François Roustan, qui était donc un hypnothérapeute que j'ai bien connu et beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué et beaucoup influencé. Il commençait par vous faire asseoir dans le fauteuil, pour de bon. Et donc là, vous n'êtes pas en train de flotter, il vous posait enfin. Et moi, je me souviens, un jour, il me disait, aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un, je lui ai dit, arrêtez d'être au-dessus de vous-même. Et donc, c'est ça. Donc, c'est la même chose. Ce que je pratiquais, faire ce que faisait François, c'est pareil. On s'assoit. Là, juste, j'ai déplié quelque chose avec l'ombre et la lumière, mais c'est la même chose. On arrête d'être dans la conscience qui regarde quelque chose. Donc, on ne peut pas y être ou ne pas y être, mais ce n'est pas flotter. Il n'essayait pas d'être flotté. Il essayait de faire, François, que vous soyez assis là où vous étiez, pour de bon. Là, dans votre vie, pour de bon.
Ça a enclenché un mouvement. C'est ce que je dirais. C'est-à-dire que quand il n'y a plus la dualité...
Oui.
Il y a un moment, un mouvement s'inscrit.
Oui.
Est-ce que...
Quand il n'y a plus la lutte entre ça, ça va pas, qu'on réintègre l'entièreté de ce que l'on vit, quand j'ai fait cette méditation, je n'ai pas du tout pensé à François. Mais oui, on voit bien les liens. Parce que quand vous essayez, d'abord, il y a l'ombre et la lumière. Puis après, il y a l'ombre et la lumière dans les sensations, l'ombre et la lumière dans les émotions. Et puis après, il y a juste... On dissout ça. On laisse tout s'intégrer. Donc, c'est ça, le mouvement. Tout est là. On laisse être tout ce qui est en lui donnant absolument... En le laissant prendre sa place à lui. Mais le mouvement dont vous parlez... Vient ce qui vient. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le mouvement où on est à nouveau synchronisé avec sa propre vie, où on laisse la conscience. C'est ça, le mouvement que faisait François, c'est vous faire lâcher la transe hypnotique, c'est la conscience, elle arrête de tyranniser les gens. Et c'est ça qu'on fait dans l'ombre et la lumière. On n'est plus en train d'évaluer ce qui se passe. On le sent. Alors, voilà, la méthodologie est un peu différente. On le sent de manière un peu... On le sent, il y a comme ça un côté un peu pédagogique. On le sent, l'ombre et la lumière, comme image, puis sensation, puis émotion. Puis après, ça, on laisse complètement ça s'intégrer. C'est plus clair ?
Oui, merci.
Et c'est ça la clé. C'est on laisse tomber, parce que c'est la dualité. La dualité, c'est la bataille, au fond. Dualité, c'est la bataille. Ça, j'ai le droit, ça, j'ai pas le droit. Ça, je vais le supporter, ça, je vais pas le supporter. Et donc, on vit tellement étroit. C'est figé, c'est conceptuel, c'est abstrait, et c'est faux. Tout ce qu'on... On aurait pu commencer comme ça. Dites ce qu'est la lumière pour vous et ce qu'est l'ombre. Ce que vous avez dit, c'est faux. Vous êtes en train de figer une interprétation sur votre réalité qui est complètement fausse. Ce que vous nommez ombre, que vous ne voudriez pas, ce que vous appelez lumière, que vous voudriez, ça, voilà, ça, c'est un niveau tellement superficiel de votre vie que tant que vous restez là, eh ben, vous êtes nulle part. Et on va laisser tomber cette conception complètement étroite, complètement fabriquée socialement, construite socialement. On va complètement le laisser tomber et on va rentrer dans quelque chose qui est infiniment plus vrai, plus vivant, plus multiple, plus palpable. Et vous allez réintégrer la vie, parce qu'on n'est pas dans la vie. On est dans une sorte, mais c'est tellement abstrait. Ça, c'est pour moi, d'accord. Ça, c'est contre moi, j'en veux pas. C'est tellement étroit, c'est minuscule. C'est un micron de notre vie. Et là, dans la pratique, on se dit, ah, mais il y a tout ça. Mais tant qu'on est dans la conception, c'est tellement étroit, c'est affreux. C'est ce qui est étroit, c'est pas tant le fait de nommer, c'est le fait d'avoir ce sort de mécanisme presque instinctif. Ça a le droit de passer. Ça, j'en veux pas. C'est très instinctif. Je ne sais pas forcément nommer, c'est très instinctif parce que vous sentez une gêne. J'en veux pas. C'est même presque. Vous avez même pas. Vous n'en voulez pas, parce que ça, c'est une gêne. Et vous devez être que dans quelque chose qui est bien. Il vous coupe, rien n'est là. Et voilà. Et alors après, quand on le nomme, tu as raison, on le nomme, pour solidifier cet complet contresens. C'est ça, le contresens de l'existence. C'est méditer, c'est se libérer du contresens profond qui nous fait nous méprendre sur ce qu'est notre vie. C'est ça, c'est un renversement profond, j'ai dit paradigme, mais c'est un peu lourdingue, paradigme, mais un renversement d'attitude. Levez la main pour que... Il y en a une personne là.
Que vous dites, c'est comme si la vie finalement ne pouvait pas être pensée, mais réellement uniquement vécue. Et oui. Quand on arrête, c'est ça.
On peut dire ça. Enfin, la vie ne peut pas être pensée, elle peut être que vécue. C'est beau. Ça, c'est très bergsonien. C'est cool. C'est beau. C'est. En tout cas, la vie ne peut pas être pensée avec des étiquettes. Après, elle pourrait être pensée quand penser, c'est déplier et déployer pleinement la subtilité des choses.
Après, là, on revient aux pensées classées. Aux pensées classées à partir du moment où j'établis des classes.
Oui, mais la pensée, elle n'est pas toujours avec des classes. La pensée, elle peut être aussi déplier quelque chose. Par exemple, si on essaie de penser l'ombre, voyez, on ne va pas forcément étiqueter la chose. On peut, je pense l'ombre, voyez, j'essaie de penser l'ombre. L'ombre, c'est ce qui nous abrite. L'ombre, c'est dans une forêt, des fois on est du côté de la lumière, des fois on est du côté de l'ombre. Des fois on a besoin de l'ombre. Des fois l'ombre, ça abrite. L'ombre, ça abrite. Mais ça peut être obscur. Mais ça peut être apaisant. Et là, on essaye de penser la chose. Nous sommes une pensée qui dévalorise l'ombre. Mais il y a le fameux livre de Tanizaki, Éloge de l'ombre. Et il y a des pensées de l'ombre qui pensent que l'ombre, c'est plus vivant que la lumière écrase. Si vous êtes photographe, il n'y a plus que de la lumière, vous ne pouvez rien faire. Photographier, c'est un jeu entre l'ombre et la lumière.
C'est ça. Donc finalement...
Donc voilà, j'essaye de penser l'ombre. Vous voyez, ouais. En pensant, je fais mieux apparaître la chose. Donc il y a penser et penser.
Mais c'est en pensant plus sur un mode vraiment sensoriel, en fait. C'est quelque
si
chose
de
beaucoup plus sensoriel que ce que vous... Enfin, l'autre côté qui serait vraiment uniquement un étiquetage, comme vous dites.
Voilà. Il y a la pensée étiquetage et il y a la pensée, si vous voulez, sensible. Moi, que j'appellerais dans mon langage, qui est proche du phénomène, qui déplie le phénomène, qui est un déploiement, dépliement. Ça, c'est très important. On n'est pas auprès... Notre manière, le malentendu de ce qu'on a, de ce que j'appelais la... le côté dualiste et manichéen, ça nous fait... C'est tellement pauvre. Donc, il y a une pensée vivante. Il y a une pensée morte, si on pourrait dire ça aussi. Au fond, il y a une pensée morte et une pensée vivante. C'est peut-être le plus simple à dire. Il y a une pensée qui rend vivant et il y a une pensée qui tue ce qu'elle touche. Ça, c'est...
J'ai l'impression que ça marche. Si, c'est bon, ça marche, oui. Grégory, en fait, quand ce soir, pendant la méditation, à un moment, c'est comme s'il arrivait un peu comme les deux embrassements quand on, par rapport à l'ombre, à la lumière. Et puis, je me suis aperçu que quand je ressentais de l'ombre à un endroit, en fait, c'est comme si je n'arrivais pas à ressentir de la lumière à un autre endroit. Comme si je me centrais sur un côté... Et là, c'était l'ombre qui écrasait le reste. Et d'un autre côté, en fait, j'essaie de ressentir ce que je pouvais ressentir dans un autre endroit du corps où je ressentais plus de lumière. Et que là, c'était comme si l'un effaçait l'autre. Et c'est bizarre, en fait. C'est comme si cette sensation, ça me faisait un peu découvrir un autre possible, mais avec l'impression que c'est comme si je m'étais trompé avec une sorte de loi de la nature, comme quoi on est dans une émotion ou dans une autre, mais pas les deux à la fois, en fait.
Et ça va changer. Vous allez voir, à un moment, vous n'allez plus pouvoir dire ombre et lumière. On sent l'ombre. Et à l'instant où on sent l'ombre, on sent qu'il y a de la lumière aussi. On sent que la chaleur, c'est l'ombre. Et à l'instant où on sent l'ombre, il y a de la lumière autour, il y a de la lumière avec. Il y a de la douceur dans l'ombre. C'est dit. Au fur et à mesure, ça va, vous allez voir, c'est inséparable. Il faut le refaire. Vous avez mal au genou. Vous sentez l'ombre. Mais si vous laissez l'ombre, il y a autre chose dedans. Vous allez voir, la lumière, elle est là aussi. Ou quand j'écoutais la moto. Parce qu'à l'instant, on cesse de lutter contre et qu'on laisse être ça comme de l'ombre, alors il y a de la lumière dedans. Pour qu'il y ait de l'ombre sans lumière, il faut qu'on soit vraiment... qu'il y ait encore une forme de rejet ou de peur. Tout est imprégné. Alors, je dirais, dans ton expérience, c'est plutôt que tu sens l'ombre et après tu sens la lumière ailleurs. C'est juste une manière pédagogique pour toi d'explorer les deux. Donc, c'est bien, tu explores. pour sortir de quelque chose de figé. Donc je dirais, c'est une étape que tu explores. C'est une bonne manière d'explorer. Et ça va continuer à s'affiner, mais c'est déjà une première découverte. Ah oui. C'est une manière de défocaliser quelque chose.
Il y a une question de Marie-Claire Starel. Elle demande si le cours d'approche de la philosophie qui va commencer samedi, est-ce que ça peut l'aider à changer de paradigme, à
oui.
équilibrer l'ombre et la lumière.
C'est bien, ça, c'est une bonne question. Samedi matin commence le cours de philo. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas au courant? Qui est au courant qu'il y a le cours samedi de philosophie? Ah, mais c'est... Ah non, continuez à lever la main. Ah, mais vous êtes très nombreux. Ce qui prouve que la communication dans l'école est d'une perfection. Ah là là, mais là, je suis... à nous qui sommes avec Benjamin, Alexandre et Alexis, qui nous disons on n'arrive pas à bien communiquer, là, on est vraiment les rois du monde. Oui, c'est bien de faire de la philosophie comme on l'a fait ici, parce que, pour reprendre la question, c'est Aurore, hein. Pour la reprendre la question d'Aurore, enfin ce que disait Aurore avant, on découvre une pensée qui n'est pas morte. La philosophie, c'est à peu près la seule pensée qui n'est pas morte, par nature. Enfin, c'est pas bien dit, parce que dans la vie tous les jours, il y a plein de pensées qui ne sont pas mortes. Mais disons, qu'est-ce que c'est la philosophie ? La philosophie, qui apparaît avec Socrate, même s'il va vous dire le contraire, Mathieu, dans son cours samedi, parce qu'on va remonter avant, mais disons, avec Socrate, qui fait, donc ce n'est pas le premier, mais c'est lui qui fait apparaître le phénomène de la manière la plus pure. Qu'est-ce que fait Socrate? Tout le monde le sait. Il dit, je ne sais rien, mais je pose des questions. Et ça s'oppose à quoi? À la parole de l'expert. L'expert, il sait tout, et il vous dit ce qu'il faut faire comme une prescription qu'il faut suivre. Et Socrate, il arrive et dit, je ne sais rien, mais je pose une question. Vous voyez, ça, c'est pour ça que c'est vivant. Et ça, c'est une bonne réponse aussi à la question d'Aurore. La pensée, quand elle est vivante, elle interroge. Vous voyez, au fond, je reprends, qu'est-ce que j'ai fait avec l'ombre? Je ne vous ai pas donné, je ne vous ai pas dit, voilà, l'ombre, c'est ça, c'est ça. J'ai essayé d'interroger, j'ai dit, ah oui. Mais l'ombre, il y a ça dans la forêt. Donc, au fond, j'ai essayé d'interroger, d'approcher, de questionner, en acceptant que j'approchais seulement, que je ne sais pas, que j'essaye d'approcher. Et c'est ça qu'on va apprendre dans la présentation de la philosophie. Tout le monde a reçu la petite vidéo que j'ai faite ? Ah, mais c'est génial ! C'est dingue ! Ah oui, dans la petite vidéo que j'ai faite... Je disais que c'était vraiment un grand... que j'étais très content que le cours commence, parce que c'est la première fois qu'on va faire un cours pédagogique, parce que j'ai vraiment fait que des séminaires pointus. Là, on va faire un cours pédagogique. Donc voilà. Donc ça, ça peut aider. Mais après, il suffit de faire la pratique. Toute pratique. Là, la pratique, c'est la pratique de l'ombre et de la lumière. Mais toute pratique, on fait ça. C'est juste là, je mets l'accent, j'en parle d'une manière, mais on fait toujours ça. Pratiquer, c'est sortir de l'illusion qu'en luttant contre ce qui ne nous plaît pas, on va être plus heureux. Méditer, c'est surmonter l'illusion que le jour où j'aurai fui suffisamment radicalement tout ce qui est douloureux, pénible, difficile, alors ce sera le pied. Ça, c'est une illusion profonde. Ça ne marche absolument pas. On ne peut qu'embrasser sa propre vie. On ne peut qu'être assis au cœur de sa propre vie. Bon ben voilà, je crois que nous avons fait un tour. Pas le tour, mais un tour. Et pour clore, je voudrais rappeler le prochain rendez-vous dimanche sur le chemin. Donc j'espère que vous serez tous là, et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment le rendez-vous, un des rendez-vous clés que nous avons tous les trimestres. Ceux qui n'ont pas encore assisté, qui viennent d'entrer dans l'école, c'est le moment où je réponds à toutes les questions sur la vie de l'école, sur le sens de la pratique, sur le sens des enseignements. On va reprendre un peu tous les rendez-vous importants de l'année. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Là, c'est un cadre où on parle de l'enseignement que j'ai donné, mais sur le chemin, vous pouvez poser toutes questions que vous voulez sur les enseignements, sur la vie de l'école. C'est vraiment important qu'il y ait un moment. Je crois que la force de l'école, c'est d'être une vraie communauté avec une vraie dimension, de partage ou d'horizontalité ou de liberté ou de singularité reconnue. Et le chemin, c'est vraiment important parce que toutes les questions sont bienvenues. Toutes les questions sont... Il n'y a pas quelque chose dont il ne faudrait pas parler. Donc sentez-vous vraiment libre d'envoyer vos questions. Et au contraire, mais je ne sais pas que je veux que vous posiez des questions particulièrement... Mais des fois, des questions de choses qui nous gênent, qui nous posent questions, qui nous travaillent. Les poser, c'est vraiment bien pour la communauté tout entière. C'est très sain. Donc c'est vraiment un moment très salutaire dans la vie de l'école, parce que c'est un moment où, en plus, comme on la pose à l'écrit, c'est moins intimidant, vous pouvez prendre le temps. Ça permet vraiment, au moins de poser les questions, d'être dans un espace où les questions peuvent être posées. Donc voilà, je compte vraiment sur vous. C'est vraiment ce qui fait que notre école est notre école, ce moment. Et ben, merci beaucoup et à dimanche. C'est dimanche en visioconférence.